Je mange bien, tout va bien, le podcast.
Beaucoup d'expériences ont été faites, montrant tout l'intérêt d'apprendre à des bébés, le plus tôt possible, de permettre à des bébés de goûter des saveurs différentes, mais aussi des textures différentes. Plus un enfant, et là c'est démontré, je dirais scientifiquement, le problème c'est que ça a du mal à retomber dans la pratique, qu'un enfant qui a pris plaisir, qui a pris curiosité au niveau de l'alimentation, cette côté curiosité est importante aussi, à découvrir des saveurs nouvelles et à prendre le temps de mâcher, de goûter des choses, de sentir les odeurs, le goût et l'odorat, c'est dans la même sphère, eh bien, il a été montré par des linguistes et des sociolinguistes que ces enfants avaient un plaisir bien plus grand que les autres à communiquer par l'oral. C'est le stade oral. Il y a plus d'un siècle, Sigmund Freud nous l'avait déjà évoqué, hein, avait plus de plaisir que d'autres et avait un niveau de langage, au niveau lexical, comme on dit à France Culture, nettement supérieur.
Douce, c'est quoi le mécanisme ? Qu'est-ce qui est en lien ? C'est-à-dire que ça vient du cerveau, ça vient des papilles, ça vient de quelque chose de limite de sociologique ?
Ça vient du cerveau, ça c'est évident, et ça vient surtout de toutes les synapses, les interférences qui se passent dans le cerveau. Hein, ce système limbique, c'est le premier qui naît chez le fœtus, c'est la zone du rêve, c'est la zone de la mémoire et de l'affectivité. C'est-à-dire qu'un enfant à qui on donne quelque chose ou à qui on fait quelque chose qu'il aime, qui lui fait plaisir, eh bien il l'enregistre en mémoire. Et que fait-il ? Eh bien, il donne des ordres aux autres, aux deux autres. Hein ? Il fabrique deux hormones. Une hormone positive, l'endomorphine, une hormone négative, la mépronisine, qui est une hormone qui dit « arrêtez tout ». C'est-à-dire que si l'enfant n'a pas de plaisir à faire quelque chose, n'est-ce pas ? Eh bien, il va fabriquer cette hormone. Ça ne vaut pas le coup de continuer. Quand un enfant apprend à prendre plaisir à manger, à pas enfourner des plats mous, insipides, etc. Prendre le temps de goûter. Ça alimente complètement sa zone de plaisir. Et à ce moment-là, ce cerveau fabrique, entre autres, des endomorphines, le système limbique, qui vont inonder toutes les zones opérationnelles, entre autres intellectuelles, du cerveau. C'est-à-dire la bouche étant, par définition, l'endroit du langage. Un enfant qui ne finit pas son assiette, par exemple, si on se met à le punir parce qu'il n'a pas fini, ou à l'obliger à finir alors qu'il n'a pas envie, très vite le plaisir peut disparaître. Ce plaisir que ce cerveau ressent, il le communique notamment au niveau du cortex, dans la zone du néocortex, dans la zone frontale, la zone du langage. Et à partir de là, cet enfant qui a un plaisir au niveau de l'oral, stade oral, Sigmund, hein, plus d'un siècle, eh bien, il va prendre plaisir à exercer cette fonction orale, entre autres, sous la forme de langage, de communication, etc. Il y a un problème que beaucoup de parents rencontrent pendant quelques années, qu'on appelle scientifiquement les néophobies alimentaires. C'est le fait qu'un enfant, toute normalité, traverse une période au cours de laquelle il refuse peu ou prou de manger ce qu'il ne connaît pas. Bon, il va être difficile, même si on ruse, dans cette période-là, de lui faire goûter des salsifis, des brocolis, des trucs, bon, c'est sûr. Bon. Et pourtant, on disait à l'instant, pour que le langage se développe pleinement, il est important que l'enfant goûte des saveurs différentes. On va dire, oui, mais comment fait-on ? Ben, il y a une solution très simple, c'est de s'intéresser à la science qui nous montre que pratiquement, il n'y a jamais de néophobie, donc de refus de manger des choses qu'on ne connaît pas, avant l'âge de 2 ans. Avant l'âge de 2 ans, et que c'est pratiquement les clochers de néophobie, c'est entre 2 et 8 ans. C'est-à-dire que on met en parallèle les capacités d'un tout petit de goûter des choses différentes sans avoir le blocage avec des trucs qu'il ne connaît pas. Le tout petit a des goûts à lui. Il y a des choses qu'il va aimer, des choses qu'il va moins aimer, c'est vrai. Mais il ne va pratiquement jamais refuser quelque chose parce qu'il ne le connaît pas. On sait aujourd'hui qu'entre 4 et 6 mois, on peut très largement commencer à fournir à des enfants, jusqu'à l'âge de 2 ans et après, des goûts différents. Je dis « et après pourquoi ?» Parce que comme il n'y a pas encore de néophobie, et que cet enfant-là de 6 mois, 1 an, 1 an et demi, a appris à goûter par plaisir plein de choses, eh bien, bien souvent, je rends compte qu'elles ne se produisent pas, les néophobies, parce qu'il a été habitué à une alimentation diversifiée. Alors que s'il est alimenté toujours avec les mêmes choses, dans cette période-là, ce qu'on a tendance à faire avec des bébés, hein, eh bien, pour lui, il va très vite refermer son goût. Ce goût qui va se rétrécir, et par définition, ça explique aussi le lien avec le rétrécissement de tout ce qui est lexical, de tout ce qui est le langage.
Mais alors, est-ce qu'il faut lui proposer d'autres choses ? Est-ce qu'il faut diversifier à ce moment-là ? Qu'est-ce que peut être l'attitude du parent ou...
Voilà. Alors, ma réponse, ça reprend un peu ce qui était dit précédemment, c'est que le plus tôt possible, mais je dis 4-5 mois, à l'âge de 4-5 mois, si on a su lui proposer des choses différentes, cette néophobie, elle est pratiquement inexistante. Elle existe, mais très peu. Par contre, si on a trop attendu longtemps, et qu'on entre dans cette période, à partir de 2 ans à peu près, eh bien, il va falloir d'abord en tenir compte, mais aussi essayer, on y revient en rusant, de lui faire goûter des choses nouvelles. De lui faire goûter des choses nouvelles en les rendant plus attractives, quelque chose qui va lui plaire, en lui montrant comment c'est préparé, etc. C'est extrêmement important. Je dis cela parce que je comprends bien le sens de votre question. Et je pense que vous avez les enfants même, hein, d'après la question. Parce que c'est vrai que c'est fatigant d'essayer, ça prend du temps de leur faire goûter des choses nouvelles. Et que c'est plus facile, dans cette période, de leur donner toujours les mêmes choses. Comme ça, ils les mangent et puis ils nous fichent la paix, quoi. Hein?
J'ai l'exemple typique dans mon entourage de quelqu'un qui dit « Je lui fais des pâtes, au moins il mange. Voilà. » Mais de peur qu'il y ait une sous-alimentation. Est-ce que c'est une bonne technique ? En tant que parent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Laisser un enfant face à une assiette qu'il ne touche pas ou lui donner quelque chose d'identique qu'on est sûr qu'il va manger ?
Alors, la deuxième solution me semble pas la bonne. Hein. C'est vrai que de temps en temps, quand on est fatigué, quand on est énervé, c'est pratique de lui donner le truc en sachant que ça va être de tourpeau. Bon, mais il faudrait pas que ça devienne une habitude sur le plan alimentaire, parce qu'on est toujours sur le même créneau. L'intérêt, c'est la diversité des goûts et des saveurs. Ça, c'est la règle d'or. Donc, il va falloir essayer de lui faire aimer, de lui faire accepter des choses différentes. C'est pour ça que je disais en mélangeant des choses, etc. Il ne va pas aimer les brocolis, mais si on le met avec autre chose, il va pouvoir quand même goûter des choses différentes. Ceci dit, je rajoute un élément. C'est la question des petits mangeurs. Il y a des petits dormeurs, des grands dormeurs. Il y a des petits mangeurs, des grands mangeurs, mâles ou femelles. Hein. Beaucoup de parents que je rencontre dans mon travail sont inquiets parce que leur enfant mange très peu. Alors, je demande à le voir, l'enfant. Mais il est en pleine forme, hein. Un enfant qui a vraiment des gros problèmes d'alimentation, ça existe, mais c'est rare. Hein. Eh bien, je vous jure que ça se voit. Hein. Il est fatigué, il est pâle, il est... Bon, beaucoup d'enfants qui sont des petits mangeurs n'ont pas besoin de gros repas. Et si vous avez une famille, on parlait tout à l'heure de... vérification d'amour. Hein. L'enfant, il sert beaucoup de l'alimentation. Il y a l'acquisition de la propreté, mais aussi l'alimentation. Si vous avez un petit mangeur qui tombe dans une famille de grands mangeurs avec des parents inquiets s'ils ne mangent pas assez à leur goût, ça va être... Là, on peut rentrer, non pas dans la pathologie, mais dans un petit problème, parce qu'il va voir à quel point il peut faire des vérifications d'amour en mangeant très peu. Ça peut l'entretenir dans un rapport très négatif avec l'alimentation. Et c'est là où ça risque de dégénérer avec l'enfant qui finit jamais son assiette, etc. Mais pour provoquer. Par contre, en règle générale, il mange pas ça, mais il mangera autre chose, puis il mangera mieux ce soir, etc. Soyons plus zen par rapport à l'alimentation. Hein, c'est extrêmement important, surtout si on voit que l'enfant est en pleine forme. Quitte à donner des pâtes pour être un peu tranquille certains soirs, de ne pas en rester en permanence à toujours les mêmes choses, ce qui aboutirait bien sûr d'une part à des carences alimentaires, Hein, c'est important, la diversification des aliments au sens biologique du terme, mais aussi au niveau langage, au niveau communication, à ce que l'enfant apprenne à goûter des choses, à développer ses papilles. Au Québec, ils appellent ça le goût grillé. Le goût grillé, c'est des enfants qui ont toujours mangé pareil et qui pratiquement ont des papilles gustatives pratiquement incapables de reconnaître des choses nouvelles. Et il y a d'ailleurs au Québec tout un courant d'orthophonistes qui, s'inspirant de travaux scientifiques, entre autres faits en France, rééduquent des enfants qui ont des problèmes langagiers en les amenant à renouer, mais je parle d'adolescents, hein, à renouer avec le plaisir des papilles. Le goût, c'est pratiquement le seul sens qui se développe à l'envers. Un bébé, bien sûr, n'identifie pas, il ne va pas savoir que ça c'est une carotte, ça c'est un navet, ça c'est... Non, mais il a un spectre au niveau des papilles qui reconnaissent le plus ou moins sucré, plus ou moins salé, plus ou moins acide, bien plus large que le nôtre. Et plus, le plus tôt possible, ces papilles sont conservées, exercées, on peut dire, hein, alimentées, on peut le dire aussi, plus elles restent intactes. Alors que sinon, le goût et l'odorat sont des sens qui se referment. C'est-à-dire que si l'enfant n'a pas de stimulation, à part dans les choses médiums, en mangeant des produits industriels en permanence, eh bien c'est très pauvre. Hein. Ces produits, c'est fait pour plaire à tout le monde. Donc, c'est pas trop salé, c'est pas trop acide, c'est pas trop etc. Cet enfant referme son goût. Et c'est précisément ce qui va alimenter, entre guillemets, les néophobies. Plus tard.
Vous parliez tout à l'heure de ruser de temps en temps pour les enfants et de leur faire goûter des choses sous des formes différentes, etc. Il y a beaucoup d'émissions culinaires qui marchent très bien en ce moment. Dès qu'il y a une épreuve sur justement faire goûter quelque chose aux enfants, c'est frit, c'est pané, c'est caché, justement pour qu'ils mangent. Mais est-ce que c'est la vraie solution ?
Non. Non, c'est évident. Et on comprend pourquoi c'est fait comme ça. Mais comme je disais, ruser, c'est plus mélanger ou donner une forme esthétique à certains plats, hein, qui vont pouvoir, ça va pouvoir devenir un volcan avec un petit cratère au milieu, transformé aussi en termes de jeu. C'est plus le vrai produit, le produit naturel, je dirais, dans son jus, entre guillemets, hein, dans son vrai jus, pas forcément frit. Il ne s'agit pas de masquer, il s'agit de conjoindre, en trichant, quelque chose que l'enfant aime ostensiblement et quelque chose qu'on veut lui faire découvrir. Et c'est plus à ce niveau-là. Alors,
mais ça prouve qu'il y a quand même une problématique sur le fait que l'enfant ne peut manger, à l'heure actuelle, dans l'esprit classique. Quand il y a un menu enfant quelque part, ça va être du jambon et des frites. L'enfant ne peut manger que des choses comme ça.
Oui, mais c'est catastrophique. C'est une certaine idée de l'enfant. C'est-à-dire, on revient même à l'échelle des restaurants, menu, comme vous disiez, menu enfant, à l'idée, voilà ce qu'ils aiment tous, donc on redonne ce qu'ils aiment tous. Et ça veut dire enfermer leur goût dans, on les prépare à aller chez McDo. Hein. Et c'est terrible. Alors, on ne va pas se la jouer parano, hein, mais ce n'est pas parce qu'on est paranoïaque que tout le monde ne nous en veut pas, quand même. Mais en fait, il y a une... Je vous rappelle ce qu'on disait tout à l'heure pour le Québec. Ils appellent souvent ça les estropiés du goût. Hein. Les estropiés du goût, c'est-à-dire des enfants qui ont un goût tellement rabougri qu'ils ne peuvent plus aimer autre chose que ce que tout le monde aime. La cuisine, c'est aussi une culture. Culture familiale, par exemple, d'arriver à manger, on se rappelle toujours de ce que notre mère faisait à manger, de hein, la façon de manger, mais aussi les plats, culture. Bon, culture, quand on regarde dans le dictionnaire, la définition, c'est ensemble des codes qui permettent de faire partie d'un groupe. C'est une définition un peu théorique, mais non, elle est très concrète. Ensemble des codes qui permettent de faire partie d'un groupe. L'enfant, par définition, il fait partie de la famille, dans un premier temps. Donc, il va adhérer au code de la famille. Mais après, il va vouloir assez vite en sortir de cette famille. Et il y a une autre culture qu'il va avoir, c'est la culture des autres enfants. Manger, s'habiller comme les autres, acheter les mêmes jouets que les autres. Et au moment de Noël, les parents savent très bien comment ça se passe. Hein, manger la même chose. Or, visiblement, tout est fait pour les amener vers cette cuisine qu'on connaît bien, hein, qui porte des noms américains, à aimer que ce type de produit. Et c'est là où, précisément, il y a aussi un travail éducatif vachement important en éveillant les goûts le plus tôt possible, en créant, on a dit, curiosité tout à l'heure, en développant chez l'enfant une curiosité alimentaire, hein, un plaisir à découvrir des choses nouvelles, contrairement au plaisir qui est manger toujours la même chose. Hein, eh bien, c'est quelque chose qui crée une curiosité, mais aussi une exigence. Cet enfant qui a pris plaisir à goûter des plats de différents pays, petite parenthèse, c'est on va bon, au restaurant. Eh bien, c'est fabuleux de voir à quel point maintenant, y compris dans des petites villes de province, il y a des restaurants du monde entier. Hein, la plupart des gares, il y a un restaurant japonais à moins de 300 mètres. Hein, des restaurants indiens, des restaurants, etc. Faire goûter. Alors, il y a des plats différents à la maison, mais aussi amener les enfants à goûter des cuisines de différents pays. Hein, on est dans quelque chose de vachement important aussi pour accepter les autres. On a quelque chose de très social.
Bon, on a parlé des problématiques, de ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Est-ce qu'il y a déjà des évolutions positives ?
Je commence à voir que ce que je vous dis là, et ce que beaucoup de gens disent, ça commence à être pris en compte par un certain nombre de municipalités, par exemple, qui commencent de plus en plus à faire des liens avec des circuits courts, avec des produits régionaux, locaux, voire bio dans un certain nombre de régions. Et c'est vraiment en marche, ce volet-là, par le fait que l'école et les élus prennent conscience que l'alimentation, ça joue un rôle extrêmement important dans les apprentissages.
Ça aide aussi à l'éducation, faire les courses, faire la cuisine.
Exactement. Alors, vous allez me dire, mais on n'a pas le temps. C'est vrai, pas toujours. Mais essayons, autant que faire se peut, de se donner le temps. De se donner le temps. Aller au marché acheter une salade, c'est nettement meilleur comme goût qu'une salade toute prête sous plastique. On voit maintenant de plus en plus, on commence à entendre que cuisiner, c'est pas forcément ni très cher, cuisiner soi-même, c'est souvent moins cher que d'acheter des plats tout faits, ni forcément très long. Quand on a un peu le temps, pensons à cuisiner, à faire le marché. À faire le marché et prendre le temps de faire le marché avec les enfants qui vont découvrir des odeurs différentes chez le marchand de légumes, chez le poissonnier, etc. L'odeur des fruits. Et puis, communiquons avec lui. Il y a des oranges, elles viennent d'eau, etc. Et puis là, celui-là, c'est un maraîcher. Alors, il vend des produits du coin. C'est pas la peine de lui demander des oranges parce qu'elles viennent d'ailleurs. Une éducation extrêmement riche. Puis on rentre à la maison. Et puis là, on va préparer le repas avec l'enfant, hein, qui va pouvoir, selon ses moyens, et très tôt, il en a plein, des moyens, participer à ça, goûter une sauce, mettre son doigt dans la sauce, voir, ah là, c'est un petit peu salé, c'est pas assez salé, etc. Énorme. Il y a toute une éducation à l'alimentation. À chaque fois qu'on entend sur une chaîne radio, quelle qu'elle soit, un grand cuisinier pour savoir comment lui est née cette vocation, vous savez comme moi, comme Racine, c'est la grand-mère, hein, la grand-mère qui faisait, etc. Oui, ils ont appris à goûter des choses, à préparer des choses, à donner leur avis sur des choses. Des tout petits prennent plaisir à ça. Alors bien sûr, on va vite, etc. Mais aussi souvent que nécessaire, et je rajouterai un élément, aussi souvent que nécessaire, essayons de manger ensemble. Aussi souvent que possible. Nécessaire, c'est tout le temps. Hein, de manger ensemble. De partager un temps de repas. Je n'ai pas le temps de vous développer par le détail, ça, c'est énorme. À travers le repas, on est en famille, assis à table ensemble. Eh bien, l'enfant apprend déjà à rester assis. Ce qui n'est pas évident du tout. Un enfant n'est pas programmé, un tout petit notamment, pour rester assis. Et même un ado, hein, il se lève, il s'assoit, il se lève, il s'assoit. Le fait de prendre plaisir, on y revient, hein, si on mange en vitesse, que le père lit le journal et que la mère regarde la télé, ça m'a un peu limité l'envie de rester assis. Hein. Mais si on peut être assis, communiquer, hein, échanger sur ce qu'on goûte, prendre le temps de goûter ensemble ce qu'on mange. Peut-être apprendre, alors ça c'est en terminale et pour les plus redoués, plus doués, apprendre aux enfants à ne commencer à manger que quand les autres sont servis. Alors ça, c'est pour vraiment pour les surdoués. Hein. Mais c'est drôlement important. Parce qu'on est dans de l'empathie, dans un lien social.
D'ailleurs, il y a une étude qui a montré au Québec, toujours, que l'hyperactivité était liée à ce moment où on prend le repas.
Étude bizarre qui remonte à plus de 20 ans. Beaucoup d'enfants ont été appelés hyperactifs. Et il a été question à un moment donné de faire des recherches sur les causes. Pourquoi, d'un seul coup, de plus en plus d'enfants étaient hyperactifs? J'ai eu la chance de participer à certains de ces travaux. Il y a eu plein de gens qui travaillaient là-dessus. Et curieusement, et on travaille beaucoup sur tout ce qui est l'alimentation, mais pas que. On travaille essentiellement sur la construction des repères chez l'enfant. Ça en fait partie, simplement, l'alimentation. Eh bien, on est arrivé, la plupart des conclusions sont arrivées au mode alimentaire, c'est-à-dire des familles où on ne mangeait jamais ensemble, où on mangeait ce qu'on appelle en ambulatoire, c'est-à-dire le père arrivait, ouvrait le frigo, cassait la croûte, la mère un peu plus tard, la petite sœur prenait deux Toblerones, publicité, le grand frère, un plateau de télé, partait dans la chambre faire la tête à titre préventif, chacun était en électron libre. Il n'y avait jamais ces fameux temps sociaux dont on est en train de se parler là. Eh bien, ces enfants ne pouvaient pas rester assis. Ils n'avaient jamais appris à rester assis. Ça veut dire que ce temps de repas est un temps fondamental pour apprendre à rester assis, n'est-ce pas ? Temps sociaux, et à partir de là, on voit à quel point le repas touche aussi des zones telles que la fameuse hyperactivité. C'est pas un hasard si on voit de plus en plus d'ados, de jeunes, qui n'arrivent pas à tenir en place. Hein ? Et c'est un problème. Alors, ce qui était terrible au Québec, maintenant c'est pris en compte différemment, c'est que souvent ça posait des problèmes en classe. Problème de concentration, et que l'enfant était considéré comme nul en lecture, nul, etc. Ne pas être incapable de rester assis, ça veut dire que vous êtes incapable de lire plus de quelques minutes. Vous passez, hop, à autre chose. Hein. Je continue à travailler au Québec, mais aussi on travaille en Europe, actuellement sur une autre pathologie, qui est, semble-t-il, pas liée directement à l'alimentation, qu'on appelle les enfants zapping. Des enfants qui sans arrêt passent d'une activité à l'autre. Hein. Eh bien, c'est un vrai problème, parce que beaucoup de travaux scientifiques, notamment au niveau des neurosciences, hein, au niveau scanner, IRM, montrent que les cerveaux de nos enfants, le cerveau humain, il a toujours changé, hein, les cerveaux de nos enfants évoluent, et que les zones qui permettent de comprendre plusieurs informations simultanées sont de plus en plus actives. C'est-à-dire, en clair, nos enfants comprennent de plus en plus vite plein de choses, grâce aux nouvelles technologies, grâce, etc., beaucoup plus vite que nous. Mais l'imprimante marche très peu. Parce que très vite, le lendemain, le jour même, ils le savaient, mais le lendemain, ils ont oublié ce qu'ils avaient appris la veille. Eh bien, c'est un peu ce volet-là. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de goûter des choses différentes. Mais à condition que ce ne soit pas manger entre deux réunions, en vitesse, etc. Prendre le temps. Il y a ce qu'on donne à manger, mais aussi le temps qu'on consacre au repas. Hein ? Alors, c'est pas des heures, mais être ensemble et s'en parler.